Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Grace Amzati Masandi.
Table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Le président de la République pense que ces assises vont permettre une orientation concertée en vue de pacifier définitivement ces deux provinces. Dans la province du Maniema, le syndicat des enseignants du Congo Sieko Kibombo 1 et 2 réclame le paiement des arriérés des salaires des enseignants pour une rentrée scolaire effective et apaisée. Notre invité est le porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF. Le colonel Makazukai nous parle de la campagne de sensibilisation à la reddition des rebelles ADF dans les territoires de Beni, lancée il y a quelques jours par les deux armées. Mesdames et messieurs, bonjour. La table ronde sur l'état des sièges permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Ce sont les propos du président de la République hier lundi, ici à Kinshasa, à l'occasion du lancement des travaux proprement dits de la table ronde sur l'état des sièges en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Au Palais du Peuple, les gouverneurs civils en congé, un échantillon des députés provinciaux et nationaux, les présidents des assemblées provinciales, les membres du gouvernement, entre autres, participent à ces assises. Ils vont réfléchir pendant trois jours sur les forces, les faiblesses en vue d'éclairer et d'orienter la décision du président de la République sur son maintien, sa réqualification ou sa levée pure et simple. Le chef de l'État lance aussi un appel aux groupes armés de déposer les armes et d'intégrer le programme des PDD-RCS. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans ses propos recueillis par Alain Rung.
Je vous demande de bien vouloir prendre la mesure, la vraie, de la situation, tout en appelant au sens élevé de votre responsabilité, car il en va de la survie de la nation tout entière. Je vous exhorte donc, chers compatriotes, chers participants, dans un esprit d'unité, de cohésion et de tolérance mutuelle, à consacrer ces trois journées au développement d'une réflexion approfondie sur l'état de siège et de sa gouvernance actuelle. Cet exercice permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je ne saurais en outre clore mon propos sans lancer un appel patriotique à ces Congolaises et ces Congolais qui sont encore malheureusement engagés dans la poursuite d'actions subversives contre la mère patrie. Je tiens à rassurer la nation que le gouvernement de la République s'est engagé de bonne foi à offrir une dernière chance de sortie pacifique aux groupes rebelles encore présents sur le territoire national à travers le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, le PDDRCS en sigle.
Pendant ce temps, dans un communiqué conjoint publié hier lundi, une dizaine de mouvements citoyens dont la Lucha, Filimbi et les Indignés exigent la libération de tous les prisonniers politiques de l'état de siège. Ils ont aussi peint un tableau sombre de cette mesure exceptionnelle instaurée dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Sur le terrain, au Nord Kivu, la société civile de la localité de Mamové dans les territoires de Beni dresse un bilan de 19 personnes tuées par les rebelles des ADF depuis le début de ce mois. Dans une déclaration faite hier lundi à Oicha, Kinos Katuo, son président, indique que les victimes ont été tuées dans 4 villages du groupement de Batangimbaou. Tout en appelant la population à la vigilance, Kinos Katuo recommande au gouvernement congolais de tout mettre en œuvre pour permettre au FRDC de venir à bout de ces terroristes à travers des opérations de grande envergure. Kinos Katuo est joint au téléphone par André Kitenge.
Le bilan des attaques des ADF du 31 juillet au 14 août dans le territoire de Beni, à secteur de Benimbao, groupement de Batangimbao, localité de Babila Bakai, est de 6 personnes tuées à Mbingi, 6 à Makangba, 4 à Mabuo Ouessa, 3 personnes à Molisson. Au total, 19 personnes ont été tuées par ces ADF dans notre territoire de Beni. Nous appelons la population à la vigilance et de ne plus fréquenter les lieux. Mais il y a aussi d'autres civils qui continuent à collaborer avec cet ennemi. Nous disons à cette population qu'un jour, ils paieront leurs actes. Au gouvernement congolais, vous êtes censé de protéger et de défendre et de mettre des moyens à nos militaires pour voir comment lasser les opérations dans nos entités où là des fois déjà érigé plusieurs bastions pendant plus ou moins 4 ans.
Je l'ai dit au sommaire, dans la province du Maniema, la situation des paies et des salaires des enseignants reste préoccupante. Certaines écoles cumulent déjà 3 mois de retard et d'autres 2 mois. Le permanent du syndicat des enseignants du Congo Sieko Kibombo 1 et 2 demande que le gouvernement central puisse prendre des précautions avant la rentrée scolaire 2023-2024. Au cas contraire, dit-il, cette rentrée scolaire demeure hypothétique. Jonathan Edengo Mulenda, président de l'intersyndicale des enseignants de l'EPST Kibombo 1 et 2, est au micro de Florence Kizalunga.
Si le gouvernement n'arrive pas à régler le problème, entre autres, prendre des précautions sur les retards de paye qui est devenu une monnaie courante chez nous, augmenter les salaires qu'on prévit aux accords d'Mbouela 1, Mbouela 2 et Mbouela 3, paiement de zones I et NP sur l'étendue du territoire national, paiement de primes d'itinérance des inspecteurs et justification sur le retrait des 30 000 francs dans les salaires des enseignants du primaire, 10 000 francs pour ceux du secondaire. Jusque là, cette situation demeure inconnue. On ne sait pas cet argent part dans quel compte. Si ces conditions citées si haut ne sont pas respectées, l'enseignant du territoire de Kibombo ne va pas reprendre le chemin de l'école. Autre chose, j'ai réagi par rapport aux déclarations de l'inspecteur général de finances et que les salaires du mois de juin est payé sur l'étendue du territoire national. Chez nous, jusque là, rien n'a pas encore été payé, monsieur l'inspecteur. Il faut le suivi dans un pays qui se respecte.
De leur côté, les enseignants membres du syndicat des enseignants du Congo Sieko de la sous-division de l'EPST Kitsombiro dans les territoires de Lubero Nord-Kivu menacent de boycotter la reprise des cours le 4 septembre prochain. Dimanche dernier, au cours d'une assemblée générale tenue à Kitsombiro, ces enseignants réclament le paiement d'au moins 2 mois de leurs arriérés des salaires. Gédéon Kambale Mouima, secrétaire du Sieko dans la sous-division de l'EPST Kitsombiro, explique au téléphone de Grévy Salumou.
C'était demandé d'être payé dans le deuxième trimestre du budget 2023. Ce deuxième trimestre a commencé au mois d'avril et rien n'a été fait. Nous sommes allés avec beaucoup de patience jusqu'à juillet. Voilà, au lieu de payer la totalité, mais on a payé encore une petite goutte dans l'océan de ces nouvelles unités dans notre sous-division. Passa aussi à la majoration, mais ça n'a pas eu lieu. C'est comme si nous sommes devenus des petits enfants, des jouets à manipuler, à qui il faut demander d'aller à l'école, et il y va comme si tout était déjà régularisé. Nous, enseignants de la sous-division de l'EPC Kitsombiro, nous refusons catégoriquement la reprise des cours, si et seulement si ces deux revendications n'ont pas trouvé gain de cause. Que les nouvelles unités soient payées à totalité, que le deuxième et troisième palier soient aussi payés. Si pas cela, il n'y a pas de rentrée scolaire, en tout cas dans notre sous-division de l'EPC Kitsombiro.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du directeur de la province éducationnelle Nord-Kivu 2 à ces sujets sont restés vains. Par ailleurs, plusieurs enfants du territoire des Manono dans la province du Tanganyika s'adonnent à l'exploitation artisanale de la cassiterite en cette période des vacances scolaires. Constat fait par une équipe de Radio Okapi en mission dans cette zone. Ces enfants affirment être des orphelins à la recherche des minerais à vendre pour subvenir à leurs besoins. Des spécialistes dans la gouvernance minière décrivent l'absence des autorités ou des organisations humanitaires pouvant identifier et aider ces enfants à sortir de ces carrières. Un reportage signé Fulbert Balolagi.
Plusieurs enfants comme elle sont dans des carrières Mukeme Makila, Libende ou encore Milbesh à Manono à la recherche de la cassiterite. Objectif, résoudre des besoins que des parents ne peuvent pas.
Je suis venue travailler pour gagner de l'argent pour mes fournitures scolaires. Mon père est décédé depuis longtemps. Si j'avais une aide, je ne serais pas ici.
Par jour, un enfant peut gagner 3000 francs, insuffisant par rapport à la peine, d'où cet appel de ses parents.
Si les autorités ou l'UNICEF peuvent intervenir pour soutenir ces enfants qui ont 14 ans, 15 ans, 10 ans, pour qu'ils ne se rendent plus dans les carrières minières.
La présence des enfants dans des carrières minières a des conséquences sur leur croissance. Leur santé, réagit le recteur de l'université de Manono et expert dans la gouvernance minière. Le professeur Ilunga Yolola déplore l'inaction face à ces phénomènes.
Comme il n'y a pas le feu de projecteur, naturellement, les acteurs étatiques sont moins mobilisés, moins soucieux des questions environnementales et sociales liées à la production de ces minerais. Les organisations non gouvernementales, tant nationales qu'internationales, ne sont pas malheureusement présentes et Manono ne fait pas partie de leur zone prioritaire d'action.
Au niveau du territoire, des efforts sont fournis, malheureusement pas suffisants, indiquent des sources locales.
Justice à présent avec l'affaire Jean-Marc Kabound. Le ministère public a dans son réquisitoire requis une condamnation de 3 ans de servitude pénale contre les députés nationaux et anciens premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. C'était hier lundi à l'audience qui s'est déroulée à la prison centrale de Makala. Sur les 12 préventions mises à charge de Kabound, seules 3 sont retenues par le parquet. Outrage au corps constitué, propagation de faux bruits et imputation dommageable. L'affaire a été prise en délibéré par la Cour de cassation. Elle rendra son arrêt le 6 septembre prochain. Par contre, l'ancien patron de l'ANR, lui, est libre de circuler. En effet, dans une correspondance signée le 10 août dernier, le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe signifie aux services attitrés la cessation des recherches concernant Kalev Mutondo. Cette autre nouvelle, la coalition des organisations de la société civile pour le suivi des réformes et de l'action publique CORAP plaide pour la prise en compte de l'énergie électrique dans les champs d'action des activités de l'initiative pour la transparence des industries extractives ITIE-RDC. Déclaration faite au cours d'un séminaire atelier qui a débuté hier lundi ici à Kinshasa par maître Jean-Claude Katende, représentant de la société civile. Il est au micro de Tati Mapoukou.
La norme ITIE prévoit des prévisions minimales. Elle laisse la possibilité aux groupes multipartites de chaque pays d'examiner et de voir au-delà des 3 matières que l'ITIE prend en compte, est-ce que la nation ou le pays peut en ajouter d'autres? C'est le cas de la République démocratique du Congo qui a ajouté la forêt qui n'est pas au départ une matière faisant partie de l'ITIE. Donc c'est que notre pays a déjà fait en intégrant la forêt, il peut aussi le faire en intégrant des secteurs de l'énergie. Aujourd'hui, la norme prend en compte la transition énergétique et l'électricité fait partie des énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies propres. Donc là, c'est déjà une fenêtre qui est ouverte par rapport à la démarche de la société civile.
Par ailleurs, la CORAP encourage les entreprises basées en RDC à faire régulièrement des déclarations sur le paiement de leurs taxes, impôts et autres factures à l'État congolais. La responsabilité revient ensuite au gouvernement d'utiliser la somme collectée à bon escient. Et puis, au Kassai Oriental, remise le week-end dernier du bâtiment ainsi que des engins roulants à la coordination au projet de renforcement de l'efficience des services d'eau potable, les RES 2. La cérémonie a été présidée par le gouverneur des provinces intérimaires, Julie Kalinga. Ce projet, financé par la coopération allemande, a pour mission d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la loi relative à l'eau et ses mesures d'application. Des explications avec Esther Ndalafina.
Selon la loi numéro 15/026 du 31 décembre 2015 relative à l'eau, cette coordination provinciale est un service technique de l'État qui a le rôle de maître d'ouvrage pour la mise en œuvre des projets d'approvisionnement en eau. Ce service aide le gouvernement dans la régulation, le développement du secteur de l'eau. Gisèle Kilemba, chef d'antenne du projet RESE pour les provinces de l'Omami et Kasaï Oriental, a donné quelques orientations à la nouvelle coordination provinciale.
Ensemble, nous devons conjuguer nos efforts pour faire de cette régie provinciale un service public d'excellence capable de planifier, d'organiser et suivre le développement du service public de l'eau en attirant des partenaires au développement et en mettant en place la délégation du service public de l'eau avec les opérateurs privés d'eau potable.
Julie Kalinga, gouverneure de province intérimaire, s'est dit satisfaite suite à l'implication du gouvernement de la République dans l'amélioration d'accès à l'eau potable aux populations. Signalons que le projet RESE est opérationnel dans les provinces du Kasaï Oriental, de Kwilu, de Lomami, du Sud Ubangi, du Nord et Sud Kivu. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le régime militaire qui a pris le pouvoir à Niamey annonce lundi 14 août dans un communiqué qu'il rappelait l'ambassadeur du Niger à Abidjan après des propos d'Alassane Ouattara. Le président ivoirien est accusé d'avoir fait l'apologie de l'action armée contre le pays en référence au feu vert donné par des voisins ouest-africains du Niger à une possible intervention armée pour rétablir l'ordre constitutionnel. Le régime militaire dénonce l'empressement d'Alassane Ouattara à voir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger.
L'invité.
Il y a quelques jours, les forces armées congolaises et ougandaises ont lancé une campagne de sensibilisation à la reddition des rebelles des ADF dans la vallée de Mwalika et le massif de Rwenzori dans les territoires de Beni. Cette campagne se déroule en collaboration avec l'organisation américaine Bridgeway. Une campagne de plus, diront certains, mais pour ces deux forces, la pression militaire exercée sur ces rebelles des ADF n'a jamais été aussi forte. Mourir ou se rendre, c'est le choix offert à ces rebelles. Comment s'est fait cette campagne? Le colonel Makazukai, porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF, s'entretient avec André Kitenge.
Colonel Makazukai, bonjour.
Bonjour.
Nous avons appris qu'il y a une opération de largage de messages de sensibilisation pour la reddition des rebelles des ADF dans le massif du Rwenzori, mais aussi dans la vallée de Mwalika. Pouvez-vous nous dire en quoi va consister cette opération?
Vous savez que les forces armées de la République démocratique du Congo et l'UPDF sont des armées régulières qui ont souscrit à toutes les résolutions relatives aux droits de l'homme. Quelle que soit la pression que nous sommes en train d'exercer sur l'ennemi, il est important qu'on puisse également respecter les coutumes de la guerre. Voilà pourquoi nous avions, il y a de cela quelques temps, annoncé au public et à l'opinion que malgré notre supériorité sur l'ennemi, nous allons procéder au lancement d'une campagne de sensibilisation à la reddition. C'est pour donner l'occasion, l'opportunité aux dépendants de l'ennemi qui sont dans cette forêt, aux terroristes, ceux qui vont nous écouter, de se rendre. Et nous avons saisi également cette opportunité, cette occasion pour dire à la population de bien accueillir tous ces gens qui vont se rendre, parce qu'il n'est pas question de se livrer à la justice populaire, de les malmener ou bien d'exposer leur intimité. Donc la campagne que nous avons lancée avec Bridgeway, qui est une organisation qui est experte dans cette question, c'est juste pour permettre, c'est une ouverture par rapport aux opérations, par rapport aux droits de l'homme, permettre à l'ennemi de se rendre, et sera traité dignement. Parce que en dehors de la pression, en dehors de tout ce que nous pouvons faire, le droit humanitaire nous exige de respecter l'ennemi. Et je suis convaincu que la population va suivre le message et que tous ceux qui vont se rendre seront dignement traités.
Ce n'est pas la première fois qu'une telle campagne de sensibilisation se fasse dans la même région, notamment dans le Mwalika. Cela veut dire que les autres campagnes n'ont pas donné des résultats escomptés?
Non, mais je pense qu'il ne faut pas désespérer, il faut toujours travailler. Vous savez, les opérations militaires ont commencé dans cette zone, ça fait très longtemps. Si ma mémoire est bonne, ça fait plus de 15 ans qu'on est en train de chercher à éradiquer le phénomène. Et nous n'allons pas nous fatiguer pour inventer les stratégies afin d'arriver à cet objectif. Donc c'est vrai qu'il y avait des campagnes, effectivement on ne peut pas dire que ça a échoué, mais seulement c'était aussi nécessaire à cette époque-là. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'avec l'allure que prennent les opérations, et c'est important qu'on puisse recourir à ça, parce que en tout cas, les deux forces armées ont les vents en poupe. Et on sent la fin de l'ennemi, on sent que l'ennemi est vraiment coincé, l'ennemi est en errance, et l'ennemi est pratiquement découragé. Il y a des dépendants qui cherchent à se rendre, il y en a qui cherchent à quitter le groupe. Il faut suivre seulement les rythmes des redditions, il faut suivre les rythmes des otages et des dépendants que nous libérons. Donc ça prouve que ils n'ont plus droit de citer dans la vallée de Mwalika, dans le massif de Rwenzori. Et c'est important qu'on puisse également, au nom du droit de la guerre, faire cette ouverture-là pour permettre à ceux qui voudront vivre, être réinsérés dans la vie civile, de sortir. Et ils seront traités dignement, ils seront pris en charge et nous verrons ce que nous allons faire.
Cette campagne de sensibilisation se fait en collaboration avec la fondation Bridgeway. Avez-vous mis à contribution la notabilité de la région?
Moi, je pense que le message était passé. Il y a longtemps que nous avions lancé ce message, et c'est aussi pour nous une occasion de saluer la collaboration dont la population de Mwalika et ses environs fait montre. Donc tout le monde sait que effectivement il faut qu'on travaille ensemble. Bridgeway et les deux forces avaient eu le temps d'informer suffisamment la population, et nous pensons que ça va se dérouler très bien.
Colonel Makazukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Le porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF est interrogé par André Kitenge. Voilà, chers auditeurs de la fréquence de la paix, ce journal touche à sa fin. Il a été coordonné et supervisé par Alain Rongmouchins et mis en onde par Pierre Diassinois. Merci de l'avoir écouté et bonne suite de la matinale avec Christelle Fritti-Mangwa.